première épître de Jean. Nous allons lire tout à l'heure un passage dans cette parole. Nous allons lire quelques versets. Vous savez que nous sommes des chrétiens évangéliques. Cela veut dire que ce qui est central pour nous, c'est l'Évangile. C'est la parole de Dieu de manière globale. Et lorsque nous nous rassemblons, c'est pour écouter ce que Dieu a à nous dire. Et nous savons que la Bible est vraiment une parole, c'est la parole de Dieu par laquelle il vivifie notre cœur, par laquelle il nous nourrit chaque jour. Et comme peuple de Dieu, eh bien, nous faisons la fête en nous réunissant ensemble pour nous nourrir ensemble. Vous avez fait des repas le 24, des repas festifs le 31, mais le repas festif des chrétiens, c'est tous les dimanches et c'est tous les jours. En particulier le dimanche, puisqu'on n'est pas seul, on est là en faisant cette fête spirituelle qui est célébrer Dieu, l'écouter et nous nourrir de lui. Alors que le Seigneur ouvre notre cœur, nous allons prier ensemble. Notre Père, nous nous présentons devant toi parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Nous ne voulons aller nulle part ailleurs, mais nous voulons nous tenir devant toi et nous te prions que tu ouvres le cœur de chacun de nous pour que nous recevions ce que tu as préparé d'avance pour nous. Parle au cœur de chacun et fortifie chacun. Nous voulons vivre, Seigneur, à ta gloire et à ton honneur. Amen. Amen. Être une église qui rayonne dans la ville, amener chacun à vivre dans l'amour du Christ et à devenir comme lui. C'est ça qui mobilise nos forces, notre énergie. Mais souvent, lorsque nous évoquons cette vision de l'Église, nous nous arrêtons au premier mot. Être une Église qui rayonne dans la ville. Et si nous le faisons, nous nous privons d'une partie essentielle de ce que nous voulons poursuivre. Parce que ça ne s'arrête pas à être une Église qui rayonne dans la ville. Car le rayonnement de notre Église n'est pas un but en soi. Nous ne poursuivons pas cela pour soi-même, mais c'est afin d'attirer les gens à Christ. C'est afin que les gens découvrent notre Seigneur Jésus et que nous leur donnions envie de connaître le Dieu que nous aimons et que nous servons. Et comment donner envie aux gens de s'attacher à ce Dieu que nous aimons et que nous servons? Eh bien, en devenant nous-mêmes comme Christ. C'est en devenant comme lui que nous pouvons donner envie aux autres parce que alors nous allons refléter ce qu'il y a de plus beau, de ce qu'il y a de plus précieux. En devenant comme lui, c'est-à-dire en rayonnant de sa grâce, de sa lumière, de sa force, de son amour. Devenir comme le Seigneur Jésus, c'est ressembler au Seigneur Jésus, c'est devenir mature dans la foi, c'est être semblable au Christ en tout. C'est le thème que je vous propose pendant plusieurs semaines, c'est-à-dire être comme lui, être comme le Christ. Et je dois dire que je suis vraiment excité à l'idée de commencer cette nouvelle série pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est le nouvel an et je veux vous encourager tous à tendre vers la maturité chrétienne. Je voudrais vraiment que nous fassions de l'année 2020 l'année de la poursuite de la maturité. Une autre raison, c'est tout simplement parce que c'est la volonté de Dieu pour nous d'être comme le Christ. Dieu ne nous a pas seulement sauvés de nos péchés, il nous a sauvés pour que nous ressemblions à notre Sauveur, et que nous reflétions l'image qu'il a placée en nous. Alors je prie vraiment que le Seigneur me donne toute la sagesse et qu'il fasse reposer son esprit sur moi pour que nous approfondissions ensemble ces vérités. Et non seulement pour que nous les approfondissions, mais je prie, et j'espère que ce sera votre prière aussi, je prie et je demande au Seigneur que chacun se sente concerné par sa vie spirituelle et que chacun cherche à avancer sur le chemin de la croissance pour devenir comme lui. N'est-ce pas une merveilleuse résolution que de décider de ressembler à Jésus-Christ et de parvenir à l'état de chrétien mature? Vous savez, aujourd'hui, le monde nous offre des tas de modèles, d'exemples, et on nous dit, regardez, ressemblez à eux, ressemblez à Johnny Hallyday, ressemblez à un tel ou à une telle star. Mais la vie la plus accomplie qui a été vécue, la vie la plus noble, la plus belle, c'est la vie qui a été vécue par Jésus. C'est la vie la plus fructueuse. C'est la vie qui a porté le plus de fruits au monde. C'est la vie qui reste la plus attirante au monde. Les stars attirent les gens, mais Jésus les attire continuellement, de tout temps, depuis 2000 ans. Alors, ce n'est pas à quelqu'un d'autre que nous voulons ressembler, mais au plus beau, au plus grand, au plus noble, au plus aimant. Autrement dit, seulement à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors bien sûr, nous sommes tous conscients que la vie chrétienne ne commence pas par la maturité dès le début. Bien sûr, il y a des étapes dans la vie chrétienne. Il y a des étapes progressives et nous commençons par la conversion. Et une fois qu'on est devenu chrétien, on tend vers la maturité et on cherche à devenir mature. Alors, ce matin, j'aimerais vous présenter les différentes étapes. Pourquoi ? Pour que chacun de vous puisse se situer au niveau où il est. Et surtout, pour que chacun se dise, je ne veux pas rester là où je suis. Je ne veux pas rester là où je suis. Je suis là, mais je veux passer à l'étape suivante. Je suis là, mais je veux passer à l'étape finale, qui est être comme lui. Alors, l'apôtre Jean, dans sa première épître, nous fait découvrir ces étapes spirituelles de la progression dans la foi jusqu'à la maturité. Il nous montre que nous sommes à l'une ou à l'autre de ces étapes, et je le répète, ce qu'il veut, c'est que nous avancions, que nous passions de l'une à l'autre avec l'objectif d'être à la dernière. Ça, c'est l'objectif. C'est ce que Dieu veut pour nous. C'est ce qu'il nous propose comme but. Alors, nous allons lire dans la première épître de Jean, chapitre 2, les versets 12 à 14. 1 Jean 2, 12 à 14. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez connu, parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin ou le mauvais ou le mal de manière générale. Nous avons dans ce passage trois versets qui nous présentent des enfants, des jeunes gens et des pères. Et l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, parle deux fois à chacun de ces trois groupes. Au verset 12 et à la fin du verset 13 et au verset 14, vous avez deux fois « je vous écris » ou alors « je vous ai écrit » enfants, parents, jeunes gens. Et bien sûr, lorsque nous lisons ce qu'il leur dit, nous comprenons qu'il ne fait pas référence à l'âge physique de ces personnes, mais il fait référence à leur âge spirituel. Il ne s'adresse pas à l'âge physique de ces personnes, mais il s'adresse à eux d'après leur maturité dans la foi, d'après leur maturité en tant que croyants. Ces trois groupes de personnes, enfants, jeunes gens et pères, sont en réalité trois étapes de la vie chrétienne. Les enfants, comme vous pouvez le voir sur l'écran, représentent le début de la vie chrétienne. Les jeunes gens représentent le chrétien en chemin vers la maturité. Et les pères sont ces chrétiens qui étaient en chemin vers la maturité et qui maintenant sont devenus adultes ou matures, si vous préférez. Bien sûr, dans la famille de Dieu, il y a des membres de tous âges. Il y a des enfants, il y a des jeunes gens et il y a des pères. Peut-être que vous êtes enfant dans la foi. Peut-être que vous êtes un chrétien vers la maturité. Peut-être que vous êtes un père, un chrétien mature. Où est-ce que vous vous situez? C'est important de le savoir. Et si on ne le sait pas, on ne peut pas avancer. Si vous ne savez pas où vous êtes, vous tournerez en rond. Et ce matin, je prie vraiment que Dieu aide chacun de vous à se dire et à comprendre « Je suis là et je veux maintenant passer à l'étape suivante. » Et alors, si vous êtes le chrétien mature, bah, vous pouvez partir. Ah, personne ne part. Tiens, ça me rassure. Mais nous sommes appelés à devenir des chrétiens matures. Peut-être que personne d'entre nous n'oserait dire « Moi, je suis chrétien mature. » Mais si personne d'entre nous n'est chrétien mature, ben nous sommes mal barrés, vous savez. Non, mais vraiment. Parce qu'il n'y a pas de honte à dire « Mais je suis chrétien mature. » Qu'est-ce que c'est qu'un chrétien mature? Une bonne question. Tu auras la réponse à la fin. Oui. C'est une bonne question à se poser. Mais c'est quoi un chrétien mature? C'est ce que nous allons voir pendant toutes les semaines qui viennent. Qu'est-ce qu'un chrétien mature? Quelle qualité il doit refléter et montrer dans sa vie? C'est ce que je vous propose. Mais commençons déjà par examiner les étapes. Et lorsque nous verrons la dernière, les pères, nous aurons déjà une réponse à cette question. Qu'est-ce qu'un chrétien mature? Pas complète, mais une ébauche de réponse. Alors, les enfants, comme je l'ai dit, les enfants à qui j'en parle représentent les débuts de la vie chrétienne. Et le début de la vie chrétienne se caractérise par deux choses que Jean dit à ses enfants. Il leur dit, « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Donc, les débuts de la vie chrétienne commencent par le pardon des péchés. Et après, il leur dit encore, à la fin du verset 13, « Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Vous le connaissez en tant que celui qui vous a engendré. » Autrement dit, les enfants, les chrétiens, au début de la vie chrétienne, se caractérisent par deux choses, le pardon des péchés et la nouvelle naissance. Dieu est devenu pour eux le Père qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Ils sont nés dans le royaume de Dieu. Ils sont nés dans la famille de Dieu. Peut-être que quelques-uns se disent « J'ai toujours été chrétien ». Absolument pas. La vie chrétienne commence forcément à un moment donné. Et elle commence par le pardon des péchés. Il fut un temps où Dieu a mis dans votre cœur et il vous a convaincu que vous êtes séparés de lui, que vous avez commis le mal à son égard. Et alors, cette conviction profonde vous a poussé à crier « Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, je suis vraiment méchant. Je suis vraiment mauvais au fond de moi. Je fais les choses que je ne veux pas. J'agis contre les gens que j'aime. Et j'ai besoin de ton secours. J'ai besoin de ton pardon. Je n'agis pas simplement contre les gens. J'ai agi contre toi. Alors Seigneur, je fais appel à ton nom. Sauve-moi. » Et alors Dieu nous a pardonnés. Dieu nous a sauvés à cause de son nom. Les enfants sont ceux que Dieu a pardonnés à cause de son nom. Ce n'est pas parce que moi j'ai mérité que Dieu me pardonne, c'est à cause du sang de Jésus-Christ. Autrement dit, à cause de la mort de Jésus. J'ai confessé comme croyant et j'ai cru que Jésus est mort pour mes péchés, que la punition que moi je méritais, il l'a prise sur lui. Et alors Dieu m'a dit, je te déclare innocent. Tu es justifié, tu es innocenté. Et quand Dieu m'accorde le pardon du péché, il me fait en même temps naître dans son royaume. Il me donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il me donne le pouvoir de naître non de la chair, c'est-à-dire par mes propres forces, non de la volonté des hommes, personne ne peut me faire naître dans le royaume de Dieu, mais par la volonté de Dieu. Les débuts de la vie chrétienne, le pardon des péchés. Est-ce que vous êtes convaincu que Dieu vous a pardonné? Est-ce que vous êtes convaincu que Dieu est votre Père? Que vous êtes né de Dieu? Que vous avez deux origines? L'origine humaine et l'origine divine. Eh bien, vous êtes déjà au début de la vie chrétienne. Mais j'espère que vous êtes encore plus loin. Mais peut-être que vous n'êtes pas encore convaincu que Dieu vous a pardonné, que Dieu est votre Père, qu'il veut être votre Père. C'est aujourd'hui que vous pouvez le faire. Vous ne pourriez jamais dire « j'ai toujours été chrétien » parce que Dieu vous appelle à un moment donné à naître de lui, autrement dit, à le reconnaître comme le Père de gloire et à lui réclamer le pardon de vos péchés. Nous sommes tous, ou nous avons tous été coupables aux yeux de Dieu, parce que nous avons fait le mal, que nous le voulions ou non. Mais ce qu'il y a de beau avec Dieu, c'est qu'il nous accorde son pardon. Et plus que ça, Dieu fait de nous ses propres enfants. Et quand vous découvrez que vous êtes pardonné par Dieu, quand vous découvrez que Dieu est maintenant le Père à qui vous pouvez vous adresser sans aucune crainte, vous savez ce que vous voulez ? Vous voulez tout de suite passer à l'étape suivante. Vous voulez tout de suite grandir en celui qui vous a sauvé, celui qui vous a accordé le pardon. Dorénavant, votre désir, c'est de grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et grandir dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus, c'est être dans la deuxième étape de la vie chrétienne. Et c'est pour ça que Jean s'adresse tout de suite à d'autres personnes qui ne sont plus les enfants, mais les jeunes gens. Les jeunes gens. C'est les chrétiens qui sont en chemin vers la maturité. Une fois qu'on est enfant, on a besoin de grandir, n'est-ce pas? Qui voudrait que son enfant reste enfant pour toujours? Sauf ma femme. Sauf les mamans, je dirais. Les mamans aimeraient bien que leurs petits restent tout le temps petits. Mais non, ils sont appelés à grandir. Et c'est la même chose dans la famille de Dieu. On est petit, on est enfant, mais on est appelé à grandir, à devenir de jeunes gens. Et j'aimerais maintenant que les jeunes gens physiques, je parle aux jeunes de l'Église, mais de bien écouter. Mais ce n'est pas parce que vous avez 50 ans que vous n'êtes plus un jeune. Jean, un jeune homme, une jeune femme. Parce que les jeunes gens sont les jeunes gens de manière spirituelle. Donc vous pouvez avoir 60 ans, 50 ans, 30 ans, vous êtes sur le chemin de la maturité et alors vous êtes un jeune homme ou une jeune femme. Et qu'est-ce que Jean dit à ces jeunes gens? Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Moi, je trouve ça formidable, n'est-ce pas? C'est quoi le propre de l'adolescence et de la jeunesse? On se croit fort, n'est-ce pas? On est invincible. On est invincible. Mais c'est la même chose pour la vie chrétienne. Vous savez, quand on est en chemin vers la maturité, que vous faites l'expérience de Dieu tous les jours, mais à un moment donné, vous vous sentez vraiment fort. Dieu est avec moi. Dieu est mon Père. Dieu m'a pardonné. Et j'avance. Et je grandis. Et je me sens fort, plus que fort, j'ai vaincu le mal. Et vous voyez que là, il n'est plus question simplement d'être délivré de la punition du péché. Il est question maintenant d'être délivré de la puissance du péché. Notez bien la différence entre les débuts de la vie chrétienne et le chemin vers la maturité, c'est que les débuts de la vie chrétienne, je suis délivré de la peine ou de la punition ou du châtiment de mon péché. Je suis pardonné. J'emploie des mots avec paix, vous voyez ? Pardonné, punition, la peine. Mais maintenant, je suis délivré de la puissance du péché. Le péché ne me domine plus. Je suis libre en Jésus. Je suis capable de dire non au mal. Plus que ça, je suis même capable de triompher du mal. Et je triomphe du mal parce que je crois en Jésus, qui a été le premier vainqueur, le premier triomphateur. Si je devais le dire en langage théologique, les débuts de la vie chrétienne, on est dans la justification. Tu es juste par la foi. Les débuts de la vie chrétienne, c'est la déclaration de Dieu à notre égard et notre position en lui, nous sommes pardonnés. Le chemin vers la maturité, c'est la sanctification. Il ne s'agit plus de croire que Dieu m'a pardonné. Ça, c'est acquis une fois pour toutes. C'est la base sur laquelle je construis. Maintenant, je me sanctifie. Et qu'est-ce que la sanctification ? Ben, c'est le chemin vers la maturité. C'est exactement ça. Dieu t'a délivré de la peine du péché. Dieu veut te délivrer de la puissance du péché. Il veut que la puissance de Christ, celui qui te fortifie, habite en toi. Et pourquoi est-ce que ces jeunes gens ont vaincu le mal ? Qu'est-ce qu'il leur dit ? Parce que vous êtes forts. Au verset suivant, au verset 14, « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. » Et pourquoi est-ce qu'ils sont forts ? Parce que la parole de Dieu demeure en vous. Vous êtes forts et la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le malin. Le chrétien en voie de maturité, le jeune homme spirituel, la jeune femme spirituelle, c'est celui qui est fort par celui qui habite en lui, par le Christ qui a fait sa demeure dans sa vie. On n'est pas fort par nous-mêmes, on est fort par celui qui nous fortifie. Et nous sommes forts parce que la parole de Dieu habite en nous, parce que la parole de Dieu demeure en nous, parce que c'est la parole de Dieu qui nous communique la force et la victoire. Elle est l'épée de l'esprit que nous saisissons et avec laquelle nous luttons contre le mal. Nous faisons exactement comme Jésus, le mature par excellence, qui, lorsque Satan est venu pour le tenter, il a trouvé dans la parole de Dieu la réponse nécessaire à toutes les attaques du diable. Si vous regardez la manière dont Jésus a répondu à Satan, ça a toujours été en citant et en s'appuyant sur la parole de Dieu. C'est parce que cette parole était en lui. Il l'a intégrée, il l'a digérée et elle a été transformée en intelligence. Elle a été transformée en vie intérieure. Et cette parole est devenue sa force. Et quand le mal était là, Jésus a répondu par cette parole. Elle était l'épée de l'esprit qu'il a utilisée pour triompher du mal. Notez bien que la parole de Dieu demeure en eux. Ce n'est pas vous lisez la Bible, vous connaissez la Bible. La parole de Dieu demeure en toi. Le jeune homme, le chrétien en voie de maturité, c'est celui qui ne se contente pas de lire la Bible. C'est celui en qui la parole de Dieu a fait son habitation et elle est devenue vivante pour le faire vivre, pour le muscler, pour le fortifier, pour lui donner la force de résister. La parole de Dieu, l'épée de l'esprit, qui intègre notre vie et qui nous fait avancer sur le chemin de la maturité. Vous voyez, c'est quand la parole de Dieu demeure en nous et que nous pouvons par elle et grâce à elle dire non aux tentations que nous sommes vraiment en chemin vers la maturité. Si le tentateur est là et que vous cédez constamment, vous êtes loin du chemin qui mène à la maturité. C'est Jean qui le dit. Maintenant, je parle particulièrement aux jeunes gens physiques, aux chrétiens de l'Assemblée. Vous avez vraiment besoin de vous attacher à la parole de Dieu. Vous avez vraiment besoin de faire de cette parole ce qui vous nourrit jour après jour. Parce que vous allez être assailli, en particulier quand vous êtes jeune en âge, par des attaques terribles. Et je ne peux pas insister trop en vous disant « Lisez la Bible. Faites de la Bible le livre le plus précieux pour vous. Mais ne la lisez pas comme un livre ordinaire. Lisez-la comme la parole vivante et permanente de Dieu qui vous régénère, qui vous fait vivre pour toujours. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Cette parole a pour but de faire naître et de former en vous le Christ. Et alors, vous aurez vraiment réussi votre vie. Peut-être qu'un jour vous serez ingénieur, peut-être qu'un jour vous serez président de la République. Vous n'aurez pas réussi votre vie. Pourquoi pas ? Dieu est capable de beaucoup de choses. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez être le plus grand des hommes, des femmes. Si Jésus-Christ n'est pas formé dans votre vie, cela ne vous servira pas à grand-chose. Parce qu'un jour, nous rendrons compte à Dieu en nous disant « Qu'est-ce que vous avez fait de moi ?» Et je parle maintenant à chacun de nous, jeune ou pas jeune, mais qui sommes sur le chemin de la maturité. Faites de la parole de Dieu votre nourriture. Sinon, vous ne pouvez pas résister aux tentations. Vous ne pouvez pas dire non aux malins. Vous serez désarmés. Désarmés. Comment est-ce que le jeune homme va-t-il purifier son chemin ou sa vie ? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? Vous connaissez la réponse. Les jeunes hommes, les jeunes femmes. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se conformant à la parole de Dieu. Psaume 119, verset 9. Normalement, les jeunes gens apprennent ça par cœur. Alors, après les enfants, après les jeunes gens, nous sommes maintenant au père. Les enfants, comme je l'ai dit, évoquent l'âge de l'initiation, le début de la vie chrétienne. Les jeunes gens, c'est l'âge qui évoque le chemin vers la maturité. Les pères, bien sûr les pères, c'est les chrétiens qui sont devenus adultes. C'est les chrétiens qui sont maintenant stables dans leur vie, dans leur foi. Et c'est les chrétiens qui sont autonomes par eux-mêmes. Ils sont sages, ils sont capables de prendre les bonnes décisions. Chacune des étapes enrichit les autres. Je ne peux pas être un chrétien vers la maturité si je n'ai pas été d'abord chrétien au début, si je n'ai pas été enfant. Et quand je suis enfant, je deviens jeune homme. Et quand je suis jeune homme, je dois devenir père. Autrement dit, je dois tendre et devenir un chrétien mature. Mais vous voyez, n'est-ce pas fabuleux déjà que d'être un jeune homme ? Autrement dit, un chrétien qui tend vers la maturité. Regardez ce que Jean dit. Il nous dit que nous avons été pardonnés de nos péchés, que nous connaissons le Père, que nous avons été engendrés de lui. Il nous dit que nous sommes vainqueurs sur le mal. Il nous dit que nous vivons et que nous marchons à la lumière de la parole de Dieu et qu'elle habite notre vie. Mais enfin, n'est-ce pas de belles choses qui doivent nous réjouir ? Qu'est-ce qui manque pour que je sois un chrétien mature ? Si je suis déjà pardonné, si Dieu est mon Père, si je l'invoque comme tel, c'est la parole de Dieu me nourrit tous les jours. Qu'est-ce qui me manque pour que je sois ce Père mature, ce chrétien adulte ? Ah ben, la réponse, nous l'avons au verset 12. Jean dit, « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu ou vous connaissez celui qui est dès le commencement. » Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. » Et quand il répète la parole, il dit exactement la même chose. Contrairement aux enfants et aux jeunes hommes, il leur dit des choses différentes à chaque fois. Là, il répète la même chose parce qu'on est là à l'essentiel. Parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Alors, lorsque nous lisons ces paroles, si nous connaissons l'épître de Jean, tout de suite, ça fait tilt dans notre esprit. Parce que qui est celui qui est dès le commencement? C'est la parole de Dieu, comme dans l'Évangile. Mais si nous lisons maintenant les premiers mots de l'épître de Jean, la manière dont il a commencé, eh bien vous allez voir que quand il dit au Père, vous connaissez celui qui est dès le commencement, il fait référence au premier verset. Et nous allons lire le premier verset. Alors, si vous le regardez à l'écran, ce qui était dès le commencement. Vous connaissez celui qui est dès le commencement. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, nous vous l'annonçons. Vous voyez, l'apôtre Jean a passé des moments très précieux, lui et les autres disciples avec le Seigneur Jésus. Ils ont vécu à ses côtés pendant 3 années. Et pendant ces 3 années, ils ont vu quelqu'un vivre. Ils l'ont entendu. Ils l'ont vu, plus que vu. Ils l'ont contemplé. C'est-à-dire qu'ils ont pris le temps de l'observer, jour et nuit. Ils étaient constamment ensemble. Et en l'observant, ils ont vu qu'il est au-delà d'un homme. C'est la parole de vie. N'allons pas croire que Jean est en train de nous parler de proximité physique avec le Seigneur Jésus. C'est vrai qu'ils étaient là à son contact, ils l'ont touché, ils ont touché son corps. Mais Jean est en train de nous parler ici de proximité spirituelle, d'intimité et de communion avec le Christ. Non pas seulement une communion avec un homme qui s'appelait Jésus, mais ils étaient en communion avec un homme qui était dès le commencement. Ils étaient en communion avec le divin, avec le glorieux, avec le Seigneur. Ils étaient au contact et ils ont touché et ils ont contemplé le Fils de Dieu, l'Éternel, notre Seigneur. Et ce dont il est question ici, c'est de cette connaissance profonde et intime avec celui qui est le Seigneur de gloire. Les apôtres, à force d'être avec lui, ils sont devenus comme lui. Le proverbe dit qui se ressemble, s'assemble. Mais le contraire est vrai aussi. Qui s'assemble, se ressemble. À force de côtoyer quelqu'un, vous finissez par être influencé par lui. À force d'avoir été avec le Christ, ils ont fini par être comme lui. Et le Père, c'est-à-dire le chrétien mature, c'est celui qui est constamment avec le Christ. Il le côtoie comme l'ont côtoyé les apôtres. Bien sûr que le Seigneur Jésus est au ciel, mais son esprit est là. Bien sûr que le Seigneur Jésus est parti en attendant de revenir, de nous prendre avec lui. Mais nous le voyons et nous le contemplons aussi vrai que les apôtres l'ont vu dans sa gloire. Nous ne le voyons pas dans son corps d'humiliation, mais nous pouvons le voir dans son corps glorifié. N'a-t-il pas dit à Thomas, « Celui qui m'a vu, a vu le Père ?» Alors, avec lui, nous voyons le Père. Les apôtres sont devenus exactement comme le Seigneur Jésus. Et cela, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu pour chacun de nous. Vous voyez, l'un des passages clés que nous connaissons tous, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Maintenant, je vous pose une question importante. C'est quoi le bien de ceux qui aiment Dieu? C'est quoi leur bien? Il faut lire la suite. Du reste, Nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, quoi? À devenir semblables ou conformes à l'image de son Fils. C'est quoi le bien suprême pour lequel Dieu fait travailler toutes choses? C'est la conformité du chrétien à son Seigneur Jésus-Christ. Devenir semblable au Fils. Alors les pères, ils sont matures parce qu'ils connaissent celui qui est dès le commencement. C'est-à-dire qu'ils le connaissent d'une connaissance toute spirituelle, toute intime, toute profonde. Ils connaissent le Seigneur Jésus dans son humanité, mais ils le connaissent aussi dans son éternité et dans sa divinité en tant qu'il est celui qui est dès le commencement. Le chrétien mature, c'est celui qui a vu de ses yeux, qui a touché de ses mains. Il est comme les apôtres. Il a vécu et il vit constamment avec le Seigneur Jésus. Le chrétien mature, c'est celui qui connaît réellement le Seigneur. Il ne connaît pas simplement la victoire du Seigneur. Il ne connaît pas seulement la parole du Seigneur. Il connaît la personne du Seigneur. Il est capable de parler de lui. Il est capable de le voir par l'Esprit de Dieu et de le contempler dans son être intérieur. Le chrétien ne demeure pas seulement dans la parole de Dieu, il demeure dans le Fils de Dieu, qui est la parole vivante et permanente. Le chrétien mature a noué une relation intime avec le Seigneur et du coup il est en communion avec le Christ pour connaître la puissance de sa résurrection, mais pour connaître aussi la communion à ses souffrances, pour devenir conforme à lui dans sa mort. Alors cela, on va en parler plus tard. Parce que devenir semblable à Jésus, c'est être conforme à lui dans sa mort. Parce que le chrétien en voie de maturité, il est conforme à Christ dans sa résurrection. C'est-à-dire qu'il est fort par la puissance de la résurrection. Mais le chrétien mature, il est fort dans la faiblesse du Christ. C'est-à-dire celui qui a goûté à la mort. Là, c'est une étape supérieure. Le chrétien mature, c'est celui qui est conforme à Jésus dans la faiblesse la plus extrême. Et qu'il le connaît dans cette faiblesse même. Mais nous y reviendrons parce que ça, c'est le paradoxe de la vie chrétienne. Et comme nous dit Paul, quand nous sommes faibles, c'est là où nous sommes vraiment forts. Si tu es en voie vers la maturité, ce que tu veux le plus, c'est être conforme à Jésus dans sa résurrection, pour que sa puissance agisse en toi. C'est super, et il faut l'avoir. Mais il y a un stade supplémentaire qui te manquera si tu n'es pas prêt à être conforme à Jésus dans sa mort. Si tu n'es pas conforme à Jésus dans sa mort, tu ne le connais qu'à moitié. Tu ne le connais qu'en tant qu'il est le puissant. Tu ne le connais pas en tant qu'il est l'humilié, celui qui a été humilié pour toi, celui qui a goûté à la mort la plus affreuse pour toi. Et quand tu dis oui et amen à la mort de Jésus dans ta propre vie, tu es un chrétien mature. Mais ça, c'est le travail de toute notre vie, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'un chrétien mature? Je viens de répondre en quelques mots, n'est-ce pas? Le temps me manque et je voudrais maintenant vous donner 10 qualités qui sont 10 caractéristiques d'un chrétien mature. Et c'est ce que nous verrons, une qualité après l'autre, dans la suite du temps qui va venir devant nous. Un chrétien mature, je pourrais mettre 40 caractéristiques, hein, n'est-ce pas? Mais là, ça deviendrait complètement loufoque. Donc, vous allez avoir ça qui sera affiché devant vous constamment pour nous rappeler pendant cette année les caractéristiques du chrétien mature. Alors, je ne vois pas bien d'ici, mais je vais essayer de me rappeler. Le chrétien mature, c'est celui qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Le chrétien mature, c'est celui qui aime les autres comme il s'aime lui-même. Le chrétien mature, c'est celui qui a construit dans sa vie des habitudes spirituelles qui lui permettent d'être dans la communion avec le Christ. Le chrétien mature, c'est celui qui vit de la prière et de la parole de Dieu. Le chrétien mature, c'est celui qui sert Dieu par ses dons. Le chrétien mature, celui qui sert Dieu par ses dons. Le chrétien mature, c'est celui qui est plein de reconnaissance à l'égard de Dieu. Le chrétien mature, c'est celui qui grandit par les épreuves. Il voit les épreuves comme une occasion de grandir. Le chrétien mature, c'est celui qui connaît la volonté de Dieu et qui la vit. Parce que connaître, c'est bien. Vivre la volonté de Dieu, c'est encore mieux. Le chrétien mature, c'est celui qui marche selon l'Esprit. Et le chrétien mature, c'est celui qui partage sa voix avec les autres. Sa foi, non seulement il la partage, mais il est capable et il sait comment amener quelqu'un à recevoir le Christ. Alors, pendant toute cette année, je voudrais vraiment vous encourager à faire de la maturité, de votre maturité, un objectif de vie. Et j'attends avec impatience de voir comment Dieu va travailler dans la vie de chacun de nous. Je sais que sa parole est puissante et il vous parle maintenant et il vous parlera pendant toutes les semaines qui vont venir. Alors, je vous donnerai cela en format de carte postale et vous garderez ça dans votre Bible pour vous rappeler vraiment quelles sont les qualités à mettre en avant dans votre vie pour devenir un chrétien mature. Mais je vous lance déjà un défi. C'est de commencer par la lecture de l'épître aux Corinthiens. Première épître de Corinthiens. Pourquoi ? Parce que c'est une épître qui parle de la maturité. Et je vous invite à la lire. Prenez le temps qu'il faut. Mais lisez-la en vous posant toujours cette question. Qu'est-ce que ce passage que j'ai lu me montre concernant ma maturité chrétienne ? Qu'est-ce qu'il me dit ? Qu'est-ce que Dieu me dit concernant ma maturité en tant que chrétien ? Alors que le Seigneur nous donne tous la force et le courage et qu'il nous donne son esprit, il est déjà donné à chacun de nous, mais que son esprit accomplisse son œuvre dans notre vie. Notre Père, nous voulons te bénir et te rendre gloire parce que tu ne nous appelles pas à de petites ambitions, mais ton ambition pour nous, Seigneur, nous dépasse. Ton ambition pour nous, c'est de faire de nous des frères et sœurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est notre désir. J'implore ton nom que tu aides chacun de nous. Grave ce désir dans le cœur et rends-nous semblables à ton Fils. Amen.